Dans ce journal, on revient sur la séance à l'Assemblée où il était notamment question de la CPS et d'Air Tahiti Nui hier. Et puis on vous parle aussi de la CCISM de sport. C'est en fin de journal. Et ce journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
On revient sur la session de l'Assemblée hier, durant laquelle les élus ont adopté une réforme.
Mais dématérialisée pour simplifier la transmission des arrêts maladie. C'est l'objet du projet de loi adopté hier à l'unanimité par l'Assemblée. À partir du 1er janvier, les salariés devant être arrêtés pour raison médicale n'auront plus à s'inquiéter de la manière dont ils feront parvenir les fameux volets de leur arrêt de travail à leur employeur et à la CPS. Désormais, les professionnels de santé, les malades et les employeurs disposeront en un seul clic des informations relatives à l'interruption. Pour le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, il s'agit d'améliorer la qualité de vie des patients qui pourront prévenir de leur absence depuis le fond de leur lit, dit-il. Et ce projet s'inscrit dans la continuité de la démarche de dématérialisation des services publics engagée par le gouvernement. On écoute le ministre de la Santé.
L'objectif de cette loi n'est pas de remplacer le papier. L'objectif de cette loi, c'est de donner un moyen probant via un smartphone de pouvoir déposer son arrêt maladie sans que ça pose de problème à personne. Le papier existera quand on n'aura pas d'autre possibilité que de l'utiliser. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de smartphone ou qui n'a pas de possibilité d'envoyer l'arrêt de travail par le smartphone parce qu'il n'a pas de wifi, bah, il pourra demander à avoir le papier et aller le déposer à son employeur comme il fait aujourd'hui. On ne lui change pas la vie.
Et l'autre aspect du projet qui est non négligeable selon le ministre, c'est le contrôle des maladies et notamment le suivi des pathologies contagieuses.
Aujourd'hui, il y a un réseau Sentinel, les médecins appellent la RAS, ils appellent, donc ça met un petit peu de temps, pour dire « Ah, il y a peut-être un cas de dingue à tel endroit, faut que vous vous renseignez ». Demain, ça se fera numériquement, directement, via l'arrêt de travail, puisqu'on aura marqué « Il y a telle pathologie dans tel endroit, allez vérifier ». La dingue, c'est génial, parce que tu vas savoir qu'il y a un cas de dingue dans tel quartier, bah tu peux mettre de suite les moyens nécessaires pour endiguer, pour pas que ça se propage partout. C'est un vrai avantage.
Et l'application est en phase de test, elle n'a pas encore de nom, mais elle devrait être disponible sur Android et sur iPhone dès le début de l'année prochaine. A noter enfin que la cohabitation des deux méthodes de dépôt, papier et internet, durera un an.
Et avant cette réforme, la troisième séance de la session budgétaire avait commencé par des questions orales.
Ah oui, la première était posée par Benoît Cahotay sur le projet de citoyenneté Maori. Le président de la CODIM s'inquiétait des contours extrêmement flous de ce concept et demandait à qui serait accordé le droit de vote. Il s'attaquait aussi au qualificatif Maori, un non-sens, dit-il, pour les marquisiens qui se définissent comme Enata ou Enana. La citoyenneté Maori serait donc pour lui une négation des marquisiens, une identité factice et inappropriée. Il demande donc si elle pourrait porter un autre nom. On écoute les éléments de réponse apportés par le président Brotherson qui se défend de vouloir imposer un terme particulier.
Polynésie, polynésien. Ce terme pourtant totalement étranger au Rinua Enata, à sa mythologie fondatrice, ne semble pas vous émouvoir. Il s'agit ici de contours qui n'ont pas été fixés volontairement afin que le débat démocratique s'opère. Elle est un moyen juridique d'assurer une vraie protection de l'emploi local et d'éviter les phénomènes de spéculation foncière. Je vous invite, monsieur le représentant, à ne pas confondre identité et citoyenneté. L'essentiel est-il dans la linguistique ? La citoyenneté est un outil juridique, non une définition identitaire.
Et pour conclure, Moëté Brotherson a proposé une réflexion autour de l'élément commun à tous les archipels, l'océan, dans lequel les académiciens des langues polynésiennes pourraient peut-être trouver un qualificatif qui mette tout le monde d'accord. Une réponse qui a paru satisfaire Benoît Cahotay.
Et votre question sur l'avenir d'Air Tahiti Nui.
Oui, posée cette fois par la représentante non inscrite Nicole Sanker, qui interrogeait Moëté Brotherson sur la protection qu'il est possible d'accorder à ATN face à la concurrence internationale. Elle a rappelé que le résultat 2022 était déficitaire et que le résultat 2023 le sera aussi. Le président, très lyrique sur ce moment, a parlé d'insuffler à nouveau l'esprit pionnier des anciens polynésiens dans la compagnie Otiare. Il a convenu que l'offre de chambres haut de gamme est en baisse et a annoncé deux prochains textes de loi pour soutenir les pensions de famille et pour mieux encadrer les meublés touristiques. Mais sur la compagnie en elle-même, c'est toujours un peu flou. Rien sur le financement de Air Tahiti Nui, simplement l'idée qu'il faut se montrer créatif. Une réponse peu satisfaisante pour Nicole Sanker qui aurait voulu entendre le président du pays sur son rôle de régulateur. C'est-à-dire sur ce qui peut être fait pour limiter les fréquences des autres compagnies aériennes internationales.
ATN prévoit un atterrissage de 2023 dans un déficit de 4 milliards, donc c'est ce qui nous inquiète aujourd'hui. Mais des réponses concrètes sur un cap à prendre pour la compagnie, ben je ne l'ai pas vraiment entendu.
Enfin, une troisième question a été posée hier. Elle vient de la représentante Tapula, Cathy Puchon. Elle a permis de se mettre à jour sur l'Institut du cancer. Le ministre de la Santé a confirmé la rumeur. Le chantier sur l'ancien site Princesse Eyata à Pirée est abandonné pour des raisons budgétaires. C'est dans l'enceinte du CHPF, dans les actuels locaux du Centre 15, que seront installés le Centre de soins oncologiques ambulatoires et le cyclotron. Des installations qui seront livrables en 2025.
On vous parlait cette semaine de la CCISM.
Oui, de la CCISM et du ministère de l'économie qui s'était opposé à un déplacement prévu de longue date à Singapour et qui n'avait toujours pas convoqué l'Assemblée générale constitutive du nouveau bureau. Eh bien, volte-face hier matin sous la forme d'un droit de réponse qui nous a été adressé. L'Assemblée générale a été convoquée hier matin pour le 27 octobre et une petite délégation d'entreprise pourra finalement partir à Singapour. Rien en revanche sur l'inclusion dans cette délégation d'un responsable de l'école de commerce qui devait finaliser des conventions de stage avec des entreprises de la première place économique d'Asie.
Il est possible de donner son avis sur nos services publics.
Ah oui, jusqu'au 12 novembre, le pays lance une enquête de satisfaction au sujet de la qualité de ses services. L'idée étant d'améliorer leur performance par la suite. Alors on parle là d'accessibilité, de transparence ou encore d'éco-responsabilité. Le questionnaire dure une dizaine de minutes. Rendez-vous pour cela sur service-public.pf.
Et un marin pêcheur sauvé par hélicoptère.
Oui, une opération d'évacuation par hélitreuillage a été orchestrée par le JRCC pour un marin qui avait fait un malaise à 150 000 nautiques de Tahiti. Alors ça s'est passé il y a 3 jours. À ce moment-là, le JRCC est contacté par un navire de pêche dans le sud-est de Tahiti avec à son bord donc un marin qui avait souffert d'un malaise. Immédiatement, le JRCC effectue une téléconférence médicale avec le centre de consultation médicale maritime afin de poser un premier diagnostic. Le bateau fait alors route sur Tahiti pour débarquer son marin qui est à ce moment-là dans un état stable. Mais quelques heures plus tard, l'état du patient ne montre aucune amélioration et une nouvelle consultation médicale est organisé avec le CMM et le SAMU. Il est alors décidé de déclencher l'hélicoptère Dauphin pour une évacuation médicalisée. À environ 80 000 nautiques au large, le marin a finalement été hélitreuillé avec succès, puis transporté au centre hospitalier de Tahiti pour sa prise en charge.
Et puis en sport, on connaît les nageurs qui iront aux Jeux du Pacifique.
Oui, après une belle édition 2019 avec 23 médailles récoltées, dont 5 en or, la sélection tahitienne de natation a de nouveau retenu 11 nageurs pour les épreuves programmées dans un peu plus d'un mois, c'est aux îles Salomon. Tous ont réussi les temps requis sur leurs nages respectives. Alors Aymar Witi Bonnard, Lili Païs, Vaio Taomi Hogassien, Teiva Géin, Rohutu Teawi, Kea Desbordes et Terea Riopa se concentreront sur les courses en bassin. Enzo Costa Lacombe participera lui à l'eau libre. Enfin, Deoti Vido, Naël Roux et Enzo Kernivinen cumuleront les deux disciplines. A noter que 9 de ces 11 sélectionnés s'entraînent aux Fénois. Autre constat, le groupe est jeune avec 16 ans de moyenne d'âge. De bon augure donc dans la perspective des Jeux de 2027 qui seront, on le rappelle, prévus à Tahiti. Voilà, on va y arriver pour finir ce journal. Et puis on se retrouve à 7h30 pour la revue de presse.
Exactement, merci beaucoup Valdez.